Charles Dickens, l'histoire du parent pauvre. Toute la famille était réunie en cercle autour du feu de Noël. Selon l'usage, chacun devait raconter une histoire. Lui, le parent pauvre, se défendait modestement de parler le premier, disant qu'il serait plus convenable que ce fût John, notre cher hôte, à la santé duquel il se permettait de boire. Il avait si peu l'habitude du premier rôle. Mais ici, chacun de se récrier, de déclarer que c'était son tour, qu'il fallait qu'il se soumît. Alors il cessa de se frotter les mains, allongea les jambes, qu'il tenait repliées sous son fauteuil et commença ainsi.
Je ne doute pas que la confession que je vais vous faire ne vous surprenne tous beaucoup. Et particulièrement John, l'aimable hôte, auquel nous devons ce soir une si gracieuse hospitalité. Croyez bien, en tout cas, quelque surprise que vous éprouviez, si toutefois vous me faites l'honneur de vous étonner, je ne raconte rien que d'absolument exact. » Il toussa et reprit. « Je ne suis pas du tout ce que je parais, mais peut-être ferais-je bien, avant d'aller plus loin, de jeter un coup d'œil sur ce personnage que je suis censé être. On croit généralement, du moins je me le figure. Et si je me trompe, je supplie les honorables membres de la famille assemblés ici de m'en avertir. » Et en disant ces mots, le pauvre homme jetait autour de lui un regard plein de douceur qui appelait la contradiction. On croit généralement que je n'ai pas de pire ennemi que moi-même, que je n'ai jamais réussi à rien, que j'ai fait de mauvaises affaires, que je me suis laissé mettre dedans par mon associé. On croit généralement que j'ai été trahi par l'objet de mon amour, que Christiane, en qui j'avais une foi aveugle, m'a trompé, et que mon oncle Chil, impatienté par ce qu'il appelait ma niaiserie, m'a déshérité. Enfin, l'opinion générale est plutôt que j'ai été maltraité par le sort, que je suis maintenant un vieux garçon entre 59 et 60 ans, vivant d'un modeste revenu, que je touche sous la forme d'une rente trimestrielle. Mais il me semble que John préfère que je passe rapidement sur ce dernier point. Quant à ma manière de vivre et à mes habitudes présentes, les voici. J'habite des chambres meublées à Clapham Road, une arrière-chambre, c'est vrai, mais très propre, et dans une maison qui a bonne apparence. J'ai la réputation de n'être jamais chez moi, à moins d'être souffrant. Pour soutenir cette réputation, je sors donc tous les matins à 9 heures, sous prétexte d'aller à mes affaires. Je déjeune d'un petit pain et d'une demi-tasse de café au restaurant près du pont de Westminster. Puis je vais dans la cité. Dieu sait pourquoi. Je m'assieds au café Garraway à la Bourse. Je vais, je viens, j'entre chez les uns, chez les autres, pour prendre un air de feu, si le temps est froid ou humide. Ainsi la journée se passe, et j'atteins 5 heures, qui est l'heure de mon dîner. Je passe ma soirée au café, où je prends une tasse de café et quelquefois même un toast. Puis, quand la grande aiguille de l'horloge marque l'heure réglementaire, je regagne mon domicile où je me couche aussitôt. Je ne fais jamais de feu, le feu étant cher, et ma propriétaire trouvant que cela donne beaucoup de peine et que cela salit tout. Je suis de temps en temps invité à dîner par un ami ou un parent. Ces jours-là, comme ce sont des jours de fête, je fais presque toujours un tour de parc. J'aime la solitude. Aussi est-ce très rare quand je me promène avec quelqu'un. Non pas que l'on me fuit à cause de mon air un peu râpé, mon vêtement noir est très convenable. Il n'est pas précisément noir, c'est du mélangé. Ce qui fait presque le même effet, et ce qui est beaucoup plus solide. Mais j'ai pris l'habitude de parler très bas. Et comme je suis naturellement silencieuse et plutôt triste, je me rends compte que je ne suis pas un compagnon bien séduisant. C'est du moins une opinion fort répandue. Et je ne connais guère que le petit Franck, le fils de mon cousin Germain, qui ne la partage pas. Aussi, j'ai une grande affection pour cet enfant, qui est très gentil pour moi. C'est un enfant timide, réservé, et que, par conséquent, on oublie souvent. Nous nous entendons très bien. J'ai comme le pressentiment que le pauvre enfant héritera de ma position dans la famille. Nous nous comprenons à demi-mot et nous pouvons nous promener de longues heures la main dans la main sans rien nous dire. Quand il était tout petit, je le menais voir les magasins de joujoux. Je crois bien qu'il avait deviné que, si je l'avais pu, je lui aurais donné tout ce dont il avait envie. Maintenant, nous allons voir l'extérieur du monument. Il aime beaucoup le monument. Et les ponts, et tout ce qu'on peut voir sans payer. Deux fois, à l'occasion de ma fête, nous avons fait une petite partie fine. Nous avons dîné au restaurant avec du bœuf à la mode, et le soir, nous sommes allés au spectacle au parterre. C'était une vraie fête. Je me souviens qu'un jour, que nous parcourions Lombard Street, un monsieur en passant m'a dit « Monsieur, votre petit garçon a laissé tomber son gant !» Et que cette simple observation si banale, cette méprise qui avait fait prendre le petit Franck pour mon enfant, m'émut profondément et m'emplit les yeux de larmes. Quand on enverra le petit Franck à l'école, à la campagne, je ne sais trop ce que je deviendrai. J'ai l'intention d'aller le voir une fois par mois et de passer la demi-journée de congé avec lui. On me dit bien qu'il aimera mieux aller jouer sur la bruyère, mais je ne le crois pas. Si toutefois on n'approuvait pas mes visites, ou qu'elles dussent déranger l'enfant, je m'arrangerai pour le voir de loin sans qu'il me vît, et je m'en retournerai. Sa mère, qui descend d'une famille noble, n'approuve pas, je le sais, notre intimité. Il est bien certain que je ne suis pas fait pour le guérir de sa sauvagerie. Mais je crois qu'il aurait beaucoup de chagrin si nous ne devions plus nous voir. Quand je mourrai, je ne laisserai pas grand-chose en ce monde. Cependant, j'ai une miniature. Celle d'un petit garçon rose et joufflu, avec une tête blonde frisée et une chemise à jabot entr'ouverte. Ma mère prétendait que c'était mon portrait, mais je ne puis pas croire que j'ai jamais ressemblé à ce chérubin. Cela ne vaudrait rien à vendre. Je demanderai la permission de la laisser à Franck. J'y ai joint, pour mon cher enfant, une lettre dans laquelle je lui dis combien je suis fâché de le quitter, tout en reconnaissant qu'il n'y a aucune raison pour que je reste en ce monde. Je lui donne quelques conseils, je l'avertis du danger d'être son propre ennemi, j'essaie de le consoler de ce que je crains qu'il ne considère comme un cruel malheur, en lui démontrant que je n'étais utile à personne, si ce n'est peut-être à lui, et que, n'ayant pas trouvé à me créer une place dans ce monde, il vaut mieux que j'en sois sorti. Tel est bien, n'est-ce pas ? Dit le pauvre homme, éclaircissant sa voix et parlant un peu plus haut. Telle est bien l'opinion générale sur moi. Eh bien, ce qui est extraordinaire, et ce que mon histoire tente à prouver, c'est que tout cela est absolument faux. Je ne mène pas du tout la vie que je viens de vous décrire. Je n'habite même pas Clapham Road. Je n'y suis même que très rarement. Je réside principalement, j'ose à peine prononcer le mot tant il me semble rempli de prétentions, dans un château. Je n'entends pas dire par là que ce soit une habitation seigneuriale. C'est cependant un bâtiment désigné par chacun sous le nom de château. C'est là que se sont passés les principaux événements de ma vie. Mais commençons par le commencement. C'est à peu près à l'époque où j'associais John Spatter, il n'était jusque-là que mon employé, à mes affaires. J'étais tout jeune alors. Je n'avais pas encore 25 ans et j'habitais chez l'oncle Shill, dont j'étais l'héritier. C'est à cette époque-là que j'osais demander la main de Christiane. J'aimais Christiane depuis l'enfance. Elle était adorablement belle et séduisante sous tous les rapports. Sa mère m'inspirait, il est vrai, quelque méfiance. Je la trouvais intrigante et intéressée. Cependant, à cause de Christiane, j'essayais de ne pas me montrer trop sévère vis-à-vis d'elle. Chère Christiane, combien je l'aimais. C'était mon premier et mon unique amour, et cet amour était toute ma vie. Christiane, avec le consentement de sa mère, accueillit ma demande, ce qui me rendit le plus heureux des hommes. La vie que je menais chez l'oncle Shill était bien triste, et la chambre mansardée que j'occupais était si peu confortable, si nue et si froide, qu'elle rappelait beaucoup une cellule de prisonniers dans quelque forteresse du Nord. Mais rien ne me paraissait amer, puisque j'avais l'amour de Christiane. Et je n'aurais pas échangé mon sort contre celui de n'importe quel être humain. Le principal défaut de mon oncle Shill était, hélas, l'avarice. Quoiqu'il fût riche, il épargnait sur tout. Il aurait tondu sur un œuf. Comme Christiane n'avait pas la moindre fortune, je fus quelque temps sans oser lui annoncer nos fiançailles. Je ne savais comment m'y prendre. Enfin, je me décidai à lui écrire une lettre dans laquelle je lui racontais tout. Je la lui remis un soir, au moment où nous nous séparions pour la nuit. Lorsque je descendis le lendemain matin, j'étais transi, au moral comme au physique. On était au mois de décembre et il faisait plus froid dans la maison non chauffée de mon oncle que dans la rue, où au moins quelques rayons de soleil brillaient de temps à autre. Le cœur tremblant d'inquiétude, je me dirigeais vers la longue salle basse où mon oncle m'attendait pour déjeuner. La pièce était immense. Un misérable petit feu brûlait dans la cheminée. Les vitres de la large fenêtre en baie conservaient les traces de la pluie qui était tombée toute la nuit. On aurait dit les traces des larmes de tous les pauvres gens sans asile. Cette fenêtre ouvrait sur une cour abandonnée, qui, avec ses pavés désunis et brisés, ses grilles rongées de rouille, avait un aspect lugubre. En face, et pour tout horizon, le bâtiment misérable qui avait servi autrefois de chambre de dissection au grand chirurgien qui avait vendu la maison à mon oncle. On était fort matinal chez l'oncle Schill. Aussi, à cette époque de l'année, nous déjeunions à la lumière. En entrant dans la pièce, je ne vis pas d'abord mon oncle, tant il était replié sur lui-même à cause du froid et ratatiné dans son fauteuil à côté de l'unique chandelle qui éclairait la pièce. Je ne l'aperçus qu'en m'approchant de la table. Alors je lui tendis la main, mais il leva sa canne. Il était infirme et ne faisait jamais un pas, même dans la maison, sans une canne, d'un geste menaçant, en s'écriant « Êtes-vous fou ?» « Oncle, je craignais votre mécontentement, mais je ne m'attendais pas... »«
Vous ne vous attendiez pas ? »
s'écria-t-il.
« Quand vous êtes-vous jamais attendu à quelque chose ? Quand avez-vous jamais rien calculé ou prévu ? Imbécile que vous êtes !»
Ce sont là des mots bien cruels, mon oncle.
« Des mots bien cruels ! Faudrait-il prendre des plumes pour battre un idiot de votre espèce ? Non ! Je vous en prie, Betty Snap ! Venez ici, regardez-le !»
Betsy Snap, une vieille femme, toute jaune et toute ridée, était notre seule domestique, et tous les matins, à cette même heure, elle frictionnait les jambes de mon oncle. Tout en lui parlant, mon oncle avait posé sa main crochue sur la tête de la vieille, tandis qu'elle était agenouillée auprès de lui, et l'avait obligé à me regarder. Malgré mes préoccupations, je me laissais distraire par ce groupe macabre, et il passa dans mon esprit comme une vision de la chambre de dissection.
« Regardez-moi cette poule mouillée, ce bébé ! Eh bien, c'est le monsieur qui naît, à ce qu'on dit l'ennemi de personne, sauf le sien. » C'est le monsieur qui ne sait pas dire non. C'est le monsieur qui faisait de si gros bénéfices dans ses affaires que, l'autre jour, il a éprouvé le besoin de prendre un associé. C'est le monsieur qui va épouser une femme qui n'a pas le sou et qui se laissera dépouiller par des Jézabels qui spéculent sur ma mort. »
À ce mot, je compris combien grande était la colère de mon oncle. Il fallait qu'il fût hors de lui pour parler de sa mort, car jamais il n'y faisait allusion sous quelque prétexte que ce fût.
« Sur ma mort !» répéta-t-il comme s'il me défiait. « Sur ma mort, ma mort, ma mort ! Mais je déjouerai leur combinaison. Mange le dernier morceau de pain que tu mangeras jamais sous mon toit, imbécile, et Dieu veuille qu'il t'étrangle !»
Cette manière de m'inviter à déjeuner n'était pas faite pour me donner grand appétit. Cependant, je m'assis à ma place accoutumée. Je le voyais bien, tout était fini entre mon oncle et moi. Mais qu'importe. Je pouvais supporter cela, comme le reste, pour l'amour de Christiane. Mon oncle but son bol de lait et mangea son pain comme d'habitude. Seulement, il l'avait pris sur ses genoux et avait retourné sa chaise afin de me tourner le dos. Quand il eut fini, il éteignit soigneusement la chandelle. La lueur grise d'un jour triste et pluvieux nous éclaira seul.
« Et maintenant, monsieur Michel, dit-il avant que nous nous séparions, je désire dire un mot à ces dames en votre présence.
À vos ordres, monsieur, repris-je. Mais vous vous trompez et vous nous méconnaissez si vous attribuez cet engagement à autre chose qu'à un amour pur et désintéressé.
Vous mentez !
Cria-t-il d'un ton colère. Puis il n'ajouta plus un seul mot. Nous gagnâmes par un temps affreux la maison qu'habitaient Christiane et sa mère. Mon oncle connaissait bien ces dames. Elles étaient à déjeuner et furent surprises de nous voir arriver à pareille heure.
« Votre serviteur, madame, dit mon oncle à la mère. Vous devinez sans doute le but de ma visite. Il m'est revenu qu'on vivait ici dans un monde idéal d'amour pur et désintéressé. Je suis heureux d'apporter ce qui manque et ce dont on a besoin. Madame, je vous amène un gendre, et à vous, mademoiselle, un mari. Mais je vous avertis que je ne connais pas ce monsieur et qu'il m'est désormais absolument étranger, bien que je lui souhaite tout le bonheur imaginable. »
En sortant, il se retourna vers moi d'un air hargneux. Ce fut la dernière fois que je le vis. N'allez pas croire, surtout, ce serait une grande erreur, continua le parent pauvre, que ma chère Christiane se soit laissée influencer par sa mère et qu'elle ait épousé un homme riche. Non, non, c'est moi qu'elle a épousé. Nous nous sommes mariés même beaucoup plus tôt que nous n'en avions eu l'intention. Voilà comment la chose s'est faite. Chassé de chez mon oncle, j'avais pris un très modeste logement. J'y étais heureux, économisant, faisant des projets pour elle, quand, un jour, elle me parla très sérieusement en ces termes. « Mon cher Michel, je vous ai donné mon cœur. Je vous ai dit que je vous aimais, et je me suis engagé à être votre femme. Je me considère comme aussi lié à votre fortune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que si nous nous étions mariés le jour où nous avons échangé nos paroles. Je vous connais bien, et je sais qu'une séparation, une rupture de notre engagement, vous briserait le cœur, vous enlèverait le courage nécessaire pour lutter contre les difficultés de la vie.
« Que Dieu vous bénisse, Christiane, interrompis-je, pour parler ainsi.
« Michel, dit-elle en mettant sa main dans la mienne, avec un geste plein de modestie. « Ne vivons plus séparés. Ai-je besoin d'ajouter que je me contenterai de ce que vous pourrez me donner? Ne sais-je pas que cela vous suffit pour être heureux? S'il faut que je vous le dise, je vous le dis de tout mon cœur. Ne luttez plus seul, mais luttons ensemble. Et maintenant, mon cher Michel, que nous sommes plus que jamais sûrs l'un de l'autre. Il ne serait pas juste que je gardasse pour moi seul un secret que vous ne soupçonnez pas, mais qui me désespère. Ma mère, sans considérer que ce que vous avez perdu, vous l'avez perdu à cause de moi, et parce que je vous avais promis ma foi, ma mère, ambitieuse pour moi et souhaitant de me voir riche, me supplie, à mon grand désespoir, d'accepter un autre parti. Je ne puis supporter cette idée. Ne vous ai-je pas donné ma foi? Non, laissez-moi partager votre vie de travail. Qu'ai-je besoin d'une maison plus luxueuse que celle que vous pouvez me donner? Je sais que vous travaillerez avec plus de courage encore si vous me sentez tout à vous. Que cela soit quand vous voudrez. Ce jour-là fut un beau jour pour moi, comme l'entrée dans un nouveau monde. Nous nous mariâmes immédiatement. Et j'emmenai ma femme chez moi, dans cette habitation dont j'ai déjà parlé, ce château que nous avons désormais toujours habité ensemble. C'est là que sont nés tous nos enfants. Notre aîné est maintenant marié. C'était une petite fille, et nous l'avions appelée Christiane. Son fils ressemble beaucoup au petit Franck. Il lui ressemble tant que c'est à peine si je peux les distinguer l'un de l'autre. L'impression généralement répandue quant aux procédés de mon associé sont également absolument erronées. Lorsque mon oncle et moi, nous nous brouillâmes, il ne me marqua aucune froideur et ne chercha nullement à s'emparer petit à petit de toute l'affaire pour m'en évincer. Au contraire, il se conduisit envers moi avec la plus grande bonne foi et une extrême délicatesse. Voici ce qui se passa entre nous. Le jour où mon oncle me chassa de chez lui, même avant l'arrivée de mes bagages au bureau, bagages que mon oncle avait envoyés sur un fiacre sans le payer, je me rendis à notre bureau qui est situé sur le quai avec la vue de la rivière, et là je racontai à John Spatter ce qui était arrivé. John ne me fit pas observer, comme le raconte la légende, que des vieux parents riches sont des choses palpables, tandis que l'amour et le sentiment, c'est l'idéal et la fiction. Il me parla ainsi. Michel, vous souvenez-vous du temps où nous étions au collège ensemble? Vous rappelez-vous que j'avais déjà le chic pour m'en tirer mieux que vous? Je m'étais fait la réputation, et Dieu sait si je la méritais, d'un bon écolier. C'est vrai, John, répondis-je. Et cependant, reprit John, j'étais un mauvais galopin. Je vous empruntais vos livres et je les perdais. Vous me prêtiez de l'argent que je ne vous rendais jamais. Je vous cédais de vieux couteaux ébréchés au prix de neuf, et si je cassais une vitre ou faisais une bêtise, je m'arrangeais pour vous la mettre sur le dos. Tout cela ne vaut pas qu'on en parle, John Spatter, dis-je, mais c'est certainement vrai. Vous veniez de fonder cette affaire qui a l'air de devoir prospérer, continua John. Lorsque je vins vous trouver, j'étais alors à la recherche de n'importe quelle situation, et vous m'avez pris comme employé. À quoi bon parler de tout cela? Plus tard, trouvant que j'avais des capacités pour les affaires, que je vous rendais des services, vous avez pensé faire acte de justice en m'associant à vos affaires. Pourquoi rappeler tous ces souvenirs, John? J'ai de suite discerné les qualités que vous aviez, et je sais ce qui me manque. Maintenant, mon bon ami, dit John en passant son bras sous le mien, comme il avait coutume de le faire au collège, tandis qu'à travers les croisées étroites de notre office, j'apercevais deux vaisseaux qui glissaient doucement en suivant le cours de la rivière et qui me représentaient John et moi, bras dessus, bras dessous, descendant en pleine confiance le courant de la vie. Puisque les circonstances ont amené cet entretien amical, expliquons-nous bien clairement. Vous êtes trop coulant, Michel. Vous n'avez pas de pire ennemi que vous-même. Craignez qu'on ne profite de cette disposition. Croyez-vous que, si je le voulais, il ne me serait pas aisé d'abuser de la confiance que vous avez en moi.
Mais vous ne ferez jamais cela, John.
Jamais. C'est une simple supposition. Mais si, par exemple, je laissais dans l'ombre tel côté de telle affaire en éclairant telle autre, je pourrais augmenter beaucoup mon influence au détriment de la vôtre et faire fortune, tandis que vous seriez distancé.
Cela est certain, dis-je.
Pour éviter cela, Michel, dit John Spatter, ou la moindre apparence d'une chose pareille, il faut qu'il existe entre nous la plus absolue franchise. Nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Il faut que nous n'ayons à nous deux qu'un même intérêt.
Mon cher John Spatter, je vous assure que c'est bien là mon désir.
Quand je vous verrai trop coulant, reprit John, sa bonne figure rayonnant d'amitié, eh bien, il faudra que vous me permettiez de veiller à ce que on n'en abuse pas. Il ne faut pas que vous vous attendiez à me voir tolérer cela.
Mon cher John Spatter. Non, non, ne tolérez rien, je me corrigerai.
Parfait, cela ira à merveille. Avec de la franchise, de la confiance et un seul et même but, notre association ne peut manquer que d'être heureuse et prospère.
Et nous nous serrâmes la main avec effusion.
J'emmenai John chez moi, dans mon château, et nous passâmes une journée charmante. Notre association fit merveille. Mon ami et mon associé suppléaient à ce qui me manquait, comme je l'avais bien prévu. Les soins qu'ils donnaient à nos affaires et à moi-même m'indemnisaient, et au-delà, du petit coup d'épaule que j'avais été à même de lui donner.
« Je ne suis pas, » continua le pauvre homme en regardant le feu et en frottant doucement ses jambes avec ses deux mains, « je ne suis pas très riche, mais je n'ai pas d'ambition et mes besoins sont modestes. Mon château, qui n'a rien de grandiose, est gai et confortable, et j'adore mon chez-moi. »
Notre fille aînée, qui ressemble beaucoup à sa mère, a épousé le fils de John Spatter. Ainsi, nos deux familles se trouvent unies par plus d'un lien. Souvent, le soir, nous nous réunissons tous, et John et moi, nous parlons du temps jadis et de la grande union qui a toujours régné entre nous. Dans mon château, je ne sais pas ce que c'est que la solitude. Je suis toujours entouré de quelques-uns de mes enfants ou petits-enfants. J'aime le gazouillement de ces jeunes voix. Ma chère et bien-aimée femme, la compagne fidèle et aimante de toute ma vie, la consolation de ma vieillesse, est la bénédiction de la maison et la source de toutes les autres. Nous adorons tous la musique dans la famille. Aussi, lorsque Christiane me voit, à certains jours, un peu triste ou découragée, elle se met au piano et me chante un air que j'adore et qu'elle me chantait quand nous étions fiancés. Cet air m'émeut si profondément que je ne peux l'entendre chanter par une autre voix que la sienne. Je l'ai entendu une fois au théâtre, un jour que j'y étais avec le petit Franck. Ce jour-là, l'enfant m'a demandé avec étonnement. « Cousin Michel, d'où viennent donc ces grosses larmes chaudes qui sont tombées sur ma main ?»«
Vous connaissez maintenant mon château et les véritables événements de mon existence. J'y emmène souvent le petit Franck, mes petits-enfants l'aiment beaucoup, et ils jouent avec eux.
à cette époque de l'année, la Noël et le jour de l'an, je quitte peu mon château, où un tas de souvenirs me retiennent.
Et ce château est ?
Interrompit la voix grave et bienveillante d'un des assistants. Oui, mon château, dit le pauvre homme, secouant la tête tout en regardant le feu, est en Espagne. John, notre hôte bien-aimé, a parfaitement deviné sa situation. C'est un château en Espagne. Mais maintenant j'ai fini. À qui le tour ?